Actes, au chapitre 10, nous lisons l'histoire d'un centenier romain à qui Jésus-Christ va se révéler, Corneille. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit « Corneille !» Les regards fixés sur lui et ses idées froides, il répondit « Qu'est-ce, Seigneur ?» Et l'ange lui dit « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. » Et il s'en est souvenu. « Envoie maintenant des hommes à Joppé et fais venir Simon surnommé Pierre. » Il est logé chez un certain Simon, corroyeur, dont la maison est près de la mer. Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela deux de ses serviteurs et un soldat pieux d'entre ceux qui étaient attachés à sa personne. Et après leur avoir tout raconté, il les envoya à Joppé. Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les quatre coins qui descendait et s'abaissait vers la terre et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit « Lève-toi, Pierre, tue et mange ». Mais Pierre dit « Non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. » Et pour la seconde fois, la voix se fit entendre à lui. « Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. » Cela arriva jusqu'à trois fois. Et aussitôt après, l'objet fut retiré dans le ciel. Tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser du sens de la vision qu'il avait eue, voici les hommes envoyés par Corneille, s'étant mis en quête de la maison de Simon, se présentèrent à la porte et demandèrent à haute voix si c'était là que logeait Simon, surnommé Pierre. Et comme Pierre réfléchissait à la vision, l'Esprit lui dit « Voici trois hommes te demandent, lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. » Pierre donc descendit et dit à ses hommes « Voici, je suis celui que vous cherchez. Quel est le motif qui vous amène ? » Ils répondirent « Corneille, centenier, homme juste et craignant Dieu, et de qui toute la nation des Juifs rend un bon témoignage, a été divinement averti par un saint ange de te faire venir dans sa maison et d'entendre tes paroles. » Pierre donc les fit entrer et les logea. Le lendemain, il se leva et partit avec eux. Quelques-uns des frères de Joppé l'accompagnèrent. Ils arrivèrent à Césarée le jour suivant. Corneille les attendait et avait invité ses parents et ses amis intimes. Lorsque Pierre entra, Corneille, qui était allé au-devant de lui, tomba à ses pieds, se prosterna, mais Pierre le releva en disant « Lève-toi, moi aussi je suis un homme. » Et conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. « Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. C'est pourquoi je n'ai pas eu d'objection à venir, puisque vous m'avez appelé. Je vous demande donc pour quel motif vous m'avez envoyé chercher. » Corneille dit « Il y a 4 jours, à cette heure-ci, je priais dans ma maison à la 9e heure. Et voici, un homme vêtu d'un habit éclatant se présenta devant moi et dit « Corneille, ta prière a été exaucée et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Envoie donc quelqu'un à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé dans la maison de Simon, corroyeur, près de la mer. Aussitôt, j'ai envoyé quelqu'un vers toi et tu as bien fait de venir. Maintenant, donc, nous sommes tous devant Dieu pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. » Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point de favoritisme, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée après avoir commencé en Galilée à la suite du baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le troisième jour et il a permis qu'il apparaisse, non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui après qu'il fut ressuscité des morts. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, « Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous ?» Et il ordonna qu'ils soient baptisés au nom du Seigneur. Sur quoi ils le prièrent de rester quelques jours auprès d'eux. Voilà. Voilà un texte déjà qui nous présente deux personnages. Et il y a déjà beaucoup à apprendre de ces deux personnages, Corneille et Pierre. Corneille, qui a de quoi nous donner des leçons. Un homme qui vient d'un milieu qui ne l'a pas éduqué dans la foi dans le Dieu créateur, mais qui vient d'un milieu idolâtre, et qui pourtant dans son chemin spirituel se pose les vraies questions et accepte petit à petit d'y donner les bonnes réponses. Nous y reviendrons. Et qui met de côté les idoles de son peuple, de sa nation, de sa culture, et qui prend position malgré tous ceux autour de lui qui ne le font pas. Il est dans l'armée romaine, et certainement bien peu suivent son exemple et son chemin pour trouver le Dieu vivant et vrai, et pourtant il prend position. Il a cette crainte de Dieu. Le texte nous dit qu'il pratique la justice, c'est-à-dire il a cette foi dans le Dieu créateur, il a le souci d'agir de manière juste selon Dieu, dans l'éthique, dans la morale, dans ses notions du bien et du mal, dont la conscience que Dieu nous a donnée rend témoignage. Corneille se positionne pour Dieu. Et puis il entraîne sa maison avec lui. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Et ce n'est pas qu'il leur a imposé. C'était que avant de connaître le message de l'évangile, Corneille était déjà en quelque sorte un évangéliste. Quelqu'un qui communique aux gens autour de lui ce qu'il a trouvé, le trésor qu'il a trouvé en Dieu. Et qu'il communique de façon qui interpelle, qui convainc, qui donne envie, parce que même les serviteurs et les soldats qui vont chercher Pierre disent de lui sa réputation. C'est pas juste quelqu'un qui dit, c'est quelqu'un qui fait ce qu'il dit.
C'est pas juste quelqu'un qui dit qu'il faut bien se conduire, c'est quelqu'un qui se conduit bien. Et tout cela, eh bien, il le fait rentrer à l'intérieur de son foyer, de sa maison, au milieu de ses serviteurs, et même peut-être dans son milieu professionnel, puisque nous voyons l'un des soldats qui est attaché à sa personne et qu'il va choisir parce que c'est un homme pieux, peut-être parce que, voilà, Corneille est quelqu'un qui communique. Nous le voyons communiquer, et ça c'est certain pourquoi. Mais parce que quand Pierre va arriver, la maison n'est pas vide. La maison est remplie. Qu'est-ce qu'il a fait, notre Corneille ? Verset 24, il avait invité ses parents et ses amis intimes. Il dit, écoutez, là il y a vraiment un message dont nos cœurs ont besoin. Il y a quelque chose que je ne connais pas encore, mais Dieu s'est révélé à moi. C'est aujourd'hui. Voilà. Il y a un certain Pierre qui va venir et qui va nous donner la pièce manquante de notre puzzle là. Venez les amis. On va avoir un message dont nos âmes ont besoin. Et ça, c'est quelque chose de formidable. Et Corneille nous donne une leçon à nous. Parce qu'avant même de recevoir le Saint-Esprit, avant même d'avoir la force du Saint-Esprit, le Saint-Esprit dont l'apôtre Paul dira à Timothée, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Un esprit de force, d'amour, de sagesse. N'est donc point honte du témoignage à rendre. Eh bien, avant même que Corneille reçoive le Saint-Esprit et toute la puissance et toute la force et toute la plénitude qu'il y a, il est déjà dans l'attitude que nous, enfants de Dieu, en Jésus-Christ, nous devrions mettre en œuvre. Quelle leçon ! Qu'un homme, avec le peu de révélation divine, le peu de connaissance qu'il a, ce qu'il a, il le met en œuvre. Ce qu'il sait de Dieu, il va le mettre en œuvre. Et puis après, il en connaîtra plus. Et nous, mettons-nous en œuvre ce que nous savons de Dieu. Et puis nous avons Pierre. Voilà l'apôtre Pierre qui est dans son arrière-plan judaïque. Et comme il dira, il est défendu aux Juifs de se lier avec les étrangers, d'entrer dans leur maison. Voilà, les païens, dans notre culture, c'est des impurs. Nous, on est le peuple choisi, le peuple élu, et les autres, non. Et on ne mélange pas, alors c'est même pas les torchons avec les serviettes, mais le linge sale avec les habits de fête somptueux. Hein? Voilà. Et le Seigneur va vouloir briser une barrière. Et il veut apprendre à Pierre que ça, c'est une fausse vision. Qu'aux yeux de Dieu, il n'y a pas une séparation entre les juifs choisis, élus et qui seraient purs aux yeux de Dieu, avec les autres qui n'ont pas eu de chance et qui ne font pas parmi des élus et pas partie des élus et qui sont donc simplement des impurs et des souillés. Et pour cela, Dieu envoie une vision à l'apôtre Pierre. Et c'est intéressant parce que Pierre y était préparé. Il logeait à ce moment-là chez un certain Simon Corroyeur, c'est-à-dire tanneur, quelqu'un qui travaillait le cuir. Et c'était un métier méprisé, bien sûr, par les Juifs, parce que qui dit travailler le cuir dit travailler les peaux d'animaux tués, toutes sortes de peaux. Et alors, le juif, il ne veut pas toucher à ça. Enfin, avec toutes les lois de purification, etc. Déjà, Pierre loge chez ce Simon. Et donc, la suite, eh bien, c'est cette vision avec tous ces animaux, et des animaux dont la loi de Moïse disait tu ne mangeras pas de ces animaux-là, ils sont impurs. Tiens, le cochon, mais pas que. Et Dieu lui dit tue et mange. Ah non, mais non, mais non. Et le Seigneur lui dit ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Et Pierre réfléchit à cette vision. Il dit, mais ça veut dire quoi? Pourquoi le Seigneur m'a envoyé ce rêve et tout? Qu'est-ce qu'il veut me dire? Et comme il réfléchit, toc, 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 on frappe à la porte et on lui demande d'aller chez les païens, chez Corneille, chez un Romain qui n'est pas juif, et d'aller annoncer la parole de Dieu dans la maison de ce Romain. Heureusement que le Seigneur a travaillé le cœur de Pierre. Et il va leur dire d'ailleurs, il va dire, vous savez que normalement j'aurais pas dû venir, mais j'ai pas eu d'objection parce que Dieu m'a appris à ne regarder personne comme impur. C'est le verset 28. Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. Pierre est pour nous aussi une leçon. Il accepte que Dieu change son regard. Il accepte que Dieu change sa façon de voir les choses qui étaient jusque-là. Il accepte de se laisser bouleverser par le Seigneur et d'obéir. Et le Seigneur, en bien des occasions, dans notre cheminement avec lui, va nous apprendre à... Oh, il y a beaucoup de choses à nous apprendre. Mais des choses qui vont changer notre regard. On ne voyait pas les choses comme ça avant, et le Seigneur nous pousse et nous pousse et nous interpelle et nous appelle clairement. Non, mais non. Tu vois les choses comme ça jusque-là, mais maintenant c'est fini. Il faut que tu changes ta manière de voir et de considérer et de raisonner et d'agir. Parce que moi, je veux que tu ailles plus loin. Et Pierre laisse le Seigneur le convaincre, laisse le Seigneur changer sa vision et il obéit. Qu'est-ce qui serait passé si Pierre n'avait pas voulu renoncer à sa manière, à sa vision de voir de jusque-là? Non, un juif ne se mélange pas, c'est plus fort que moi, je ne vais pas aller chez ces païens. Non. Trop dur, trop difficile, ça me heurte trop. Non, Seigneur. Mais il obéit. Et nous avons également besoin d'obéir à l'appel du Seigneur, obéir aux barrières qui sont là, mais que le Seigneur veut enlever dans notre service pour lui, dans notre regard sur les gens autour, dans notre regard sur les choses spirituelles. Alors, au-delà de ces deux leçons de ce texte, où nous voyons Corneille qui nous donne des leçons sur le fait d'être un évangéliste avant l'heure, sans connaître même l'évangile, mais d'avoir cette attitude. Et puis au-delà de la leçon de Pierre, qui obéit au Seigneur et qui laisse le Seigneur bouleverser sa vision des choses, voir les choses autrement. Nous voulons dans ce texte, au travers de ce texte, aborder des choses un petit peu plus pointues, peut-être un petit peu plus complexes, mais qui sont importantes à comprendre. Alors, je commencerai par un extrait d'un email que nous avons reçu très récemment, de la famille missionnaire en Afghanistan, Anna et Ryan. Et voilà ce qu'elle dit. Mercredi soir, nous avons invité une famille à dîner avec nous. La femme a eu 4 rêves de Jésus lorsqu'elle vivait au Pakistan. Et le mari et les deux enfants désirent suivre notre Seigneur. Nous avons été mis en contact avec eux par un chrétien pachtoun vivant en Californie. Tiens, encore aujourd'hui, Jésus, comme pour Corneille, impulse un rêve pour se faire connaître. Et nous avons là le sujet avec Corneille, mais aussi avec le nuque éthiopien, c'était juste avant, dans les actes, on en a parlé. Tout comme ces personnes aujourd'hui qui vivent dans des pays fermés, où on n'a pas accès à l'évangile, ou comme nos amis, la famille Touche, les missionnaires Aurélie et André Touche, qui travaillent pour le Seigneur en Papouasie-Nouvelle-Guinée, dans une tribu tellement perdue et reculée que, bien sûr, l'évangile n'avait jamais été jusque-là. Et il reste aujourd'hui des endroits et des personnes dans le monde, bien qu'ils n'ont jamais entendu parler de Jésus, de l'évangile, qui n'ont jamais entendu parler de la Bible. C'est le cas pendant les 2000 ans qui se sont passés depuis la mort et la résurrection de Jésus-Christ, où l'évangile, petit à petit, a atteint certains pays, progressivement. Et la question qui est pour nous, c'est oui, mais toutes ces personnes qui n'ont jamais entendu parler de Jésus, qui n'ont jamais donc eu l'occasion d'obéir à l'évangile, devant Dieu, comment va-t-il les juger ? Lui qui est le juge des vivants et des morts, comment va-t-il juger des personnes qui n'ont jamais eu l'occasion d'obéir à l'évangile, tout simplement parce que, comme dit Romain, comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche ? Si Pierre n'était pas allé voir Corneille, si les missionnaires n'allaient pas propager l'évangile, comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler, nous dit la parole de Dieu. On ne peut pas croire en quelqu'un dont on n'a jamais entendu parler. Et cela pose donc une question un petit peu complexe, qui est: quel est, dans l'ensemble de la parole de Dieu, le principe du salut, le principe à partir duquel Dieu va sauver l'être humain? Quel est le principe à partir duquel, au jour du jugement, Dieu fera le tri entre ceux qui sont justifiés et ceux qui ne le sont pas? Et ça pose d'ailleurs la question de tous ceux qui étaient avant Jésus-Christ. Dans l'Ancien Testament, au temps d'Adam, comment était-on sauvé? Comment se réconcilie-t-on avec Dieu? Comment Dieu fera-t-il le tri entre ceux qui sont justifiés et ceux qui ne le sont pas? Alors, bien sûr, il n'y a de salut en aucun autre qu'en Jésus-Christ. Il n'y a de sous le ciel aucun autre nom qui nous a été donné par lequel il nous faille être sauvés. Jésus a dit: je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Oui. Oui, mais Jésus n'était pas encore venu du temps d'Abraham, du temps de Moïse et de tout de ces époques, de tous les contemporains qui n'étaient même pas en Israël, mais qui étaient ailleurs, en Égypte, en Chine, chez les Incas, où vous voulez. L'être humain, pouvait-il être sauvé ou pas? Alors, le verset que nous avons lu tout à l'heure en Romains, nous dit « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, mais ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. » Tous ceux de l'Ancien Testament, comment est-ce que, sur quelle base Dieu a-t-il pu pardonner le péché d'Adam et Ève, pardonner le péché de ceux qui ont suivi? Est-ce que c'était sur la base des sacrifices des animaux? Non. L'Épître aux Hébreux nous dit, mais c'est pas le sang d'un animal hein, qui peut ôter le péché d'un homme. Hein. Mais c'était par Jésus qu'ils étaient sauvés. La suite du verset, ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Ce moyen, avant Christ, il n'avait pas encore été mis en œuvre, mais c'était déjà sur le futur, sur ce que Christ allait faire, sur le fait qu'il allait donner sa vie comme agneau de Dieu, comme rançon pour le péché du monde. C'était sur la base de cette substitution, sur le fait, sur la base du fait qu'il allait payer pour les péchés, que tous ceux avant lui seront justifiés par le moyen de la rédemption qui est en Jésus. Et tous ceux qui viendront après, Jésus-Christ est mort pour tous ceux qui, nous le verrons, ont été justifiés par Dieu avant sa venue, après sa venue, qu'on connaisse ou qu'on ne connaisse pas le moyen de cette rédemption. Le moyen de cette rédemption, évidemment, comment Dieu pourrait-il être juste tout en justifiant l'impie? L'Épître aux Romains pose la question. Comment est-ce qu'un coupable peut-il être absous? C'est pas juste. Sauf si quelqu'un paye à sa place. Et voilà pourquoi il n'y a de salut en aucun autre, parce que Christ seul a été puni à notre place. Christ seul a porté le péché du monde pour qu'on puisse être justifié et déclaré juste. Et Dieu reste juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Alors, à partir de là, nous allons réfléchir au principe du salut. Habacuc 2,4 nous dit « Le juste vivra par la foi ». Et trois passages du Nouveau Testament reprennent cette affirmation « Le juste vivra par la foi ». Nous l'avons en Galates 3, verset 11, Galates 3, 11, « Que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident puisqu'il est dit « Le juste vivra par la foi ». C'est pas parce qu'on fait partie du peuple élu juif qui a la loi qu'on est sauvé. C'est ce que nous dit le texte, c'est pas parce qu'on a la loi, ou c'est pas parce qu'on obéit à la loi, ou parce qu'on met les rituels de la loi en œuvre qu'on est sauvé. Ce qui sauve, c'est la foi. Le juste vivra par la foi. Nous l'avons encore en Romains 1. Romains 1, verset 17. En Christ est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Ah, jusqu'à présent, elle n'avait pas été révélée. Tout à l'heure, nous parlerons du principe de la révélation progressive. Dieu se révèle dans l'histoire de l'humanité de manière progressive. Dieu ne dit pas tout tout de suite. Il ne révèle pas tout tout de suite, ni partout, ni en même temps. Néanmoins, quand Jésus-Christ apparaît sur la scène, lorsque Dieu se fait homme et qu'il s'incarne et qu'il vit cette vie parfaite et qu'il meurt et qu'il ressuscite, alors oui, en lui est révélée la justice de Dieu. Et nous parlions, comment Dieu peut-il être juste en justifiant un pécheur, un impie? C'est pas possible. Si, en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Et nous l'avons également en Hébreux 10, verset 38, à nouveau. On ne va pas le lire. Le juste vivra par la foi. Tiens, c'est intéressant. Le juste vivra par la foi. Et cela nous demande, nous pose la question, mais qui est juste? Que nous dit la parole à propos du juste? Quel est le principe du juste dans la Bible? Et nous découvrons le principe du juste dans la Bible à l'époque d'Abraham, avec Dieu qui veut juger Sodome et Gomorre. Dieu veut juger cette ville méchante et impie, et nous avons Abraham en Genèse 18, prenez-le, c'est très intéressant. Nous avons Abraham qui va poser la question à Dieu. Abraham qui est sensible au fait que Dieu va juger toute une ville. Et c'est toute la question de la justice de Dieu qui est derrière. Oui, Abraham trouve juste que Dieu puisse condamner le méchant, il en va de la justice de Dieu, mais il dit, mais le juste. Alors, en Genèse 18, au verset 23, Abraham s'approcha et dit, et donc c'est le très célèbre épisode où Abraham intercède avec Dieu, feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Il parle des habitants de Sodome. Il dit, mais dans le lot, il y a peut-être des justes. Feras-tu périr le juste avec le méchant? Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Les feras-tu périr aussi et ne pardonneras-tu pas la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? Et le verset 25 est fondamental. Faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant, loin de toi cette manière d'agir, loin de toi. Celui qui juge toute la terre, n'exercera-t-il pas la justice? Voilà un principe fondamental. Celui qui juge toute la terre, à l'époque d'Abraham, que nous soyons en Inde, en Chine, en Amérique, il y a des hommes et des femmes qui vivent, qui existent, et que Dieu voit, et que Dieu connaît par leur nom. Et Dieu voit là certains d'une certaine région de Mésopotamie, Sodome, il dit, oups, là, va falloir faire du ménage, ça va trop loin. Et Abraham qui dit, oui, mais le juste qui est au milieu. Nous avons ici cette première mention de Dieu comme juge de toute la terre, et ce n'est pas dans sa justice, ce n'est pas dans sa personne, dans sa mentalité de faire périr le juste avec l'injuste. Ça, c'est un principe fondateur. Nous continuons avec Job. Job, ce n'était pas un juif, mais c'était un homme qui honorait Dieu en tant que Dieu créateur et unique, et qui faisait attention à sa manière de vivre, attention à sa moralité. Et nous voyons deux passages en Job. Job 4, verset 7. Donc c'est juste avant les psaumes, hein, Job, livre de Job. Job, chapitre 4, au verset 7. Et voilà ce que des amis disent à Job. Ils lui disent, parce que comme il lui est arrivé plein de malheurs, ils lui disent, cherche dans ton souvenir, quel est l'innocent qui a péri? Quels sont les justes qui ont été exterminés? Oui, un des principes du Seigneur, c'est de ne pas faire périr le juste avec l'injuste. Alors ce que vit Job là est un petit peu différent. Ce n'est pas parce qu'il est injuste, c'est parce que c'est une épreuve que le Seigneur permet dans sa vie pour le faire progresser. Et la conclusion de Job sera la suivante, en Job 36, verset 7. Job 36, 7. Il ne détourne pas les yeux de dessus les justes, il les place sur le trône avec les rois. il les y fait asseoir pour toujours, afin qu'ils soient élevés. » La conclusion de ce que Job connaît de Dieu, et qui est ici raconté par son ami Élihu, c'est que Dieu fait asseoir pour toujours les justes sur le trône pour l'éternité. Alors, Jésus va le dire différemment et peut-être plus clairement. Mais avant d'aller voir les paroles de Jésus, regardons le livre des Psaumes, au chapitre 69, psaume 69, parce qu'il y est question pour la première fois du livre de vie. Psaume 69, verset 29. Là, il s'agit des méchants. Et ce que le psalmiste dit à propos de ces méchants, le verset 29, c'est qu'ils soient effacés du livre de vie et qu'ils ne soient point inscrits avec les justes. Tiens, hein, ça nous fait penser au mémorial de Yad Vashem en Israël, où le nom des justes pendant la Seconde Guerre mondiale est inscrit, n'est-ce pas ? On écrit le nom des justes, c'est-à-dire ceux qui ont sauvé des juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais là, c'est une autre liste qui apparaît, la liste des justes qui est écrite dans le ciel. Et Jésus dira aux disciples, « Réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans le livre de vie. » Amen. Tiens. Alors maintenant, allons vers les paroles de Jésus. En Matthieu 13, au verset 49, après avoir dit plusieurs paraboles, Jésus dit au verset 49, il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes, et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Tiens. Jésus réaffirme à propos du jugement que le jugement, c'est le jugement des justes et des méchants. Il poursuit au chapitre 25, Matthieu 25, verset 46. Encore à propos de ceux qui ont agi pour le Seigneur ou pas pour le Seigneur, il dit « Ceux-ci iront au châtiment éternel. » On parle bien du châtiment éternel. Hein. « Ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. » Jean 5, verset 28. Donc, il a été donné le pouvoir de juger à Christ, parce qu'il est le Fils de l'homme, c'est le verset 27. Verset 28, « Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. » Alors là, nous sommes un petit peu surpris dans nos habitudes évangéliques, j'ai envie de dire. On dit, oui, mais normalement, on n'est pas sauvé parce qu'on fait de bien et... On va y revenir. Mais réaffirmons quand même que depuis le début de la Bible, la question du salut, c'est le juste vivra par la foi. Que le jugement, c'est le juste et l'injuste, le méchant avec le juste, celui qui fait le bien et celui qui fait le mal. Et Jésus le dit. Paul le dira en acte 24, il va parler de la résurrection des justes et des injustes. Et aujourd'hui dans notre texte, en acte 10, au verset 34, nous avons Pierre face à Corneille, face à un Romain, pieux qui craint Dieu, mais qui cependant n'est pas juif et n'est pas dans le judaïsme et n'a pas adopté le judaïsme. Face à une telle personne, que dit Pierre ? Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point de favoritisme, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. » Et ça, c'est très fort. En toute nation, celles qui sont frontalières d'Israël, mais celles qui sont à l'autre bout de la planète et qui n'ont pas eu de contact avec Israël. Là, Corneille en avait eu des contacts. Mais il y en a d'autres qui n'ont pas de contact. Et Pierre dit, je reconnais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Puis il dit, c'est vrai, il a envoyé la parole aux fils d'Israël. Oui, les fils d'Israël ont reçu la révélation, une révélation toute particulière de Dieu que les autres n'ont pas reçue. Et là, Pierre se rend compte d'un message plus juste. Lorsqu'on parle du peuple juif, du peuple élu, du peuple choisi, ce n'est pas choisi pour être sauvé, c'est choisi pour être les bénéficiaires d'une révélation de Dieu qu'il n'a pas fait aux autres. Dieu, par les prophètes, s'est révélé au peuple juif par sa parole et par une présence toute particulière qu'il n'avait pas donnée aux autres nations. C'est le choix de Dieu. C'est son choix souverain. Ce n'est pas un choix pour être sauvé, c'est un choix pour avoir accès à Dieu qui se révèle davantage. Et la révélation de Dieu est progressive. La révélation de Dieu, elle commence avant tout par la création, par la nature. Romains 1 nous le dit. Et n'importe quel être humain qui vit sur cette terre a ce témoignage fondamental de la création. Et le texte biblique, on y reviendra, nous dit « La puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu quand on considère dans ses ouvrages. » Voilà. Quand on commence à réfléchir au monde, à l'existence du monde, à sa nature, Romains 1 nous dit, il n'y a que ceux qui ne veulent pas connaître Dieu, que ceux qui ne veulent pas se soucier, qui ne veulent pas se soumettre à Dieu, qui vont inventer des tas d'autres choses. Mais sinon, le témoignage de la nature nous pousse à nous tourner vers un créateur. Et un créateur tout puissant, un créateur bon, un créateur qui fait toutes choses belles en son temps. Alors nous allons justement dans Romains. Romains, le grand livre qui parle du salut. Le grand thème de Romains, c'est le salut. Et nous sommes surpris de comment il commence. Il commence Romains, chapitre 1. Justement, avec ce témoignage de la création, c'est le verset 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété, toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Hein, tout cet athéisme, cette idolâtrie. Il dit, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. On parle de la révélation de Dieu, au moins au travers de la nature de la création. En effet, les perfections invisibles de Dieu, hein, le fait que tout soit parfait, toute chose bonne, ce Dieu bon, parfait, qui fait toute chose belle, sa divinité, le fait que Dieu existe, se voit comme à l'œil nu depuis la création du monde, quand on les considère dans son ouvrage. Ils sont donc inexcusables, car ayant connu Dieu, travers de ce témoignage, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Verset 23, ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image, représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes, et nous avons là tout le panthéon des divinités à figure d'animaux, à figure d'hommes et tout ce que vous voulez. Et c'est terrible, le verset 27 nous dit « Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur. » Ça, c'est la première des choses. Le juste, qui est-il? Le juste vivra par la foi. La foi en qui? Romain nous dit, la première des choses, c'est la foi en un Dieu créateur, bon, dont les perfections invisibles se voient dans la création, et dont on ne fait pas d'image. Et alors ça, c'est quelque chose de très intéressant, parce que nous voyons Corneille, par exemple, qui, dans son cheminement spirituel païen, s'est posé les bonnes questions et a donné les bonnes réponses pour s'adresser, se détacher de ses idoles de son époque et s'adresser au Dieu créateur. Corneille n'est pas le seul à l'avoir fait. Nous avons, au cours des siècles, des tas de gens qui se sont posés les bonnes questions et ont donné les bonnes réponses. Nous avons, par exemple, avant Moïse, un pharaon égyptien qui s'appelle Akhenaton. Sa femme est plus connue, Néfertiti. Un pharaon qui, j'ai dit, mais on va revenir à la source. Il n'y a qu'un seul Dieu. Tout ce panthéon qu'on a en Égypte, c'est n'importe quoi. Et pendant son règne, il a obligé le peuple à revenir à l'adoration d'un seul et unique Dieu. Et plusieurs cantiques qu'il a écrits ressemblent aux psaumes. Et je vous lirai simplement quelque chose que j'ai trouvé à ce propos. Alors lui, le Dieu unique, c'était Aton. Hein. On dit « Tout ce qu'il a dit concernant Aton n'est pas nouveau, car ses idées étaient à la base de l'enseignement secret des temples depuis des siècles. Du point de vue des initiés, la réforme d'Akhenaton était une divulgation des mystères de l'ancien enseignement. » On comprend la colère des initiés qui considéraient cette divulgation comme un sacrilège. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans toutes les religions, et ça je vous conseille l'excellent ouvrage de Don Richardson, « L'éternité dans leur cœur » ou « Le petit guide des religions », on se rend compte aujourd'hui que tout ce qu'on pensait avant c'était faux. Hein. Les archéologues, etc., se rendent compte que on n'est pas parti de l'animisme pour arriver au polythéisme, puis pour arriver au monothéisme comme une évolution de la pensée de l'homme. C'est exactement le contraire. Dans toutes les religions du monde, quand on fouille dans l'histoire de ces religions, au tout départ, dans toutes, il y a un Dieu tout-puissant, créateur, unique, invisible, dont on ne fait pas d'image, qui est bon et qui a tout créé, mais dont on a perdu la trace à cause d'une rébellion. C'est formidable. Et on va retrouver la trace de ce Dieu unique et créateur dans toutes les religions. Ici, le texte nous dit que cette réforme de ce pharaon Akhenaton, en fait, qu'est-ce qui se passait? C'est que l'ancien enseignement des Égyptiens parlait bien d'un Dieu unique. Mais c'était les initiés, c'était, on le gardait secret. Pourquoi nous étonner de ce verset 18 de Romains? La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété, toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. C'est pareil en Chine. Vous allez en Chine, vous retrouvez les prémices de la religion, de la foi en Chine. C'est un dieu, c'est Changdai, on l'appelait Changdai. Seulement, l'erreur qu'ils ont faite, c'était que l'adoration de Changdai, ce dieu unique dont on ne fait pas de représentation, a été un culte réservé à l'empereur, en fait, voilà. Ça, c'était la grande erreur de la Chine, de dire ce Dieu est trop merveilleux pour que le bas peuple l'adore et le loue. Ça va être réservé à la famille impériale. Mais à l'origine en Chine, la trace et la connaissance du Dieu unique, elle y était. Mais ce n'est pas étonnant. Nous sommes tous issus d'un seul sang. Nous avons tous eu comme père et mère Adam, Ève, avec toute cette trace de Dieu, du Dieu unique, qu'on a emporté avec nous. Et après le déluge, c'est la même chose. On emporte, ils ont emporté avec eux le témoignage du Dieu vivant et vrai, dont on ne fait pas de représentation, et qu'on adore, et qu'on doit simplement craindre. Le juste vivra par la foi, c'est-à-dire cette sainte crainte de Dieu, d'un Dieu unique, et qui ne veut pas qu'on vive en salissant son image, créé à l'image de Dieu, porteur de l'image de Dieu, pas créé pour pécher. On pense aux Incas. Également, dans l'Empire Inca, à un moment, il y a un empereur, là c'était le dieu soleil, hein, il dit, mais le soleil, il fait toujours le même parcours, etc. C'est un serviteur. Et il a initié donc toute une réforme où il dit, mais non, mais au fait, je me souviens que mon père me parlait du vrai Dieu, du Dieu unique dont on ne fait pas de représentation. Et donc il a instauré dans le royaume toute cette adoration au Dieu unique, hein, monothéisme. Mais là, ce qu'il a réservé aussi qu'à l'élite, voilà. Et donc c'est tombé avec lui. Tous ces témoignages sont là. À toute époque, un homme est capable de se poser des bonnes questions à propos de Dieu. Vous savez, des fois on pense aux gens d'il y a 5000 ans comme des gros barbares, ignares, analphabètes, qui ne savent pas se poser des questions. C'est pas vrai. L'homme a toujours été un être profondément intelligent, profondément philosophique, profondément spirituel, qui sait s'interroger sur le sens de son existence, de sa vie et son origine vis-à-vis de Dieu. Oui ou non ? Peut-être même plus avant qu'aujourd'hui, nous qui sommes tellement abrutis par une société de consommation et d'écran et de loisirs, on ne sait même plus s'interroger sur rien. Il y a 5000 ans, les gens avaient une réflexion certainement beaucoup plus profonde que nos contemporains aujourd'hui. Et oui, il y avait des gens à toute époque qui se disaient « Oh, notre panthéon de Dieu, c'est pas un peu tiré par les cheveux ce truc-là ? C'est quand même bizarre. » Parce que... Et ils s'interrogeaient, etc. Et le Dieu unique. En toute nation, il y a ce témoignage, cette trace. Et n'importe quel être humain peut se détacher, je dirais, de tout l'héritage culturel idolâtre en se tournant vers le Dieu unique et vrai dans la limite de ce qu'il en connaît. Et j'insiste bien là-dessus, dans la limite de ce qu'il en connaît. Alors nous allons justement dans la suite de Romains maintenant. On a vu ce témoignage de la création. Nous allons maintenant voir le juste, c'est celui qui craint Dieu et c'est celui qui agit avec justice. Et c'est toute la question de ce qui se passe dans le cœur vis-à-vis du bien et du mal. Être juste, ça ne signifie pas être quelqu'un qui fait que le bien, qui est quelqu'un de bien. Être juste, c'est se rendre compte qu'on n'est pas quelqu'un de bien. Et c'est être dans une démarche de repentance vis-à-vis du Dieu en auquel on croit pour vivre selon la justice. C'est Romains qui le dit. Nous allons donc en Romains au verset 4. Il s'agit d'échapper ou pas au jugement de Dieu quand on fait le mal. Et le verset 4 dit « Méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience, de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance ? Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu qui rendra à chacun selon ses œuvres. Il réserve, et là c'est très important, il réserve la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité, mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal, sur le juif premièrement, puis sur le grec. Gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien, pour le juif premièrement, puis pour le grec. Car devant Dieu, il n'y a point de favoritisme. La même expression que Pierre a employée. Vous voyez que même dans Romains, on retrouve ce principe du juste. Alors il va nous dire. Parce que le problème, c'est que on ne connaît pas forcément bien Dieu. Peut-être qu'on n'a jamais entendu parler de Jésus. Peut-être que, comme Corneille, lui, n'était pas dans la loi. Alors, au verset 12, il dit « Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi, et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. » Faire ce qui est juste. On va dire, oui, mais si je ne connais pas la loi de Dieu. Vous, les juifs, vous avez eu la révélation, vous avez eu des lois. Vous, les chrétiens, vous avez... Voilà. Mais si je ne connais pas tout ça, comment Dieu va-t-il me juger? Verset 14, il répond. Quand les païens, qui n'ont point la loi, font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont, eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Que se passe-t-il pour les païens qui n'ont pas la loi? Que se passe-t-il pour quelqu'un aujourd'hui dans une tribu de Papouasie-Nouvelle-Guinée qui n'a jamais entendu l'évangile? Peut-il être justifié devant Dieu? La parole nous dit oui, d'abord, s'il s'occupe d'adorer le Créateur plutôt que la créature, Romains 1, le témoignage de Dieu à travers la nature, etc., une foi placée dans le Dieu Créateur. Et deuxièmement, la question de comment je vis, comment je me comporte. Qu'est-ce qui se passe dans le cœur de telle personne? Mais Dieu a mis le témoignage de notre conscience. Il dit en fait, qu'est-ce qui se passe? Leurs pensées s'accusent et se défendent tour à tour. C'est-à-dire que il y a cette persévérance à bien faire, du verset 7. Je veux persévérer dans le bien. Je sais que la bonté de Dieu me pousse à la repentance. Je sais qu'en péchant, intuitivement, ma conscience me le dit, j'abîme l'œuvre de Dieu, ce Dieu que je connais peut-être mal, mais que je connais quand même et que j'adore. Et je veux persévérer dans le bien. Et dans mon cœur, il y a un aller-retour qui se fait, de dire, oui, mais est-ce que là, ce que tu fais, c'est bien? Non, tu sais pas, non, ça va pas, c'est n'importe quoi comment tu t'es comporté. Ne te laisse pas aller à agir comme ça. Tu vois bien que c'est pas selon ce qui est bien. Et il y a cet aller-retour de pensée, entre pensée et conscience, dans le cœur des païens, qui n'ont point la loi, mais qui, d'après leur conscience, vont faire naturellement ce que prescrit la loi. Et finalement, il dit, la loi est écrite dans leur cœur. Alors, pourquoi dire tout ça? Parce que parfois, nous confondons peut-être le salut avec la révélation. Dieu est juste et il jugera les hommes en fonction de la révélation qu'ils ont eue ou qu'ils n'ont pas eue. Dieu ne va pas juger des hommes parce qu'ils n'ont pas cru en Jésus alors qu'ils n'ont jamais même entendu parler de Jésus. Mais le fil conducteur de toute la parole de Dieu, de Genèse jusqu'à Romains, c'est que le juste vivra par la foi, c'est que dans l'être humain, Dieu a mis la pensée de Dieu, de l'éternité, le témoignage de la création qui permet de se détacher de l'idolâtrie ambiante, d'une culture nauséabonde pour se tourner et pour retrouver la trace que Dieu a laissée dans toutes les religions, pour se tourner vers le Dieu vivant et vrai. et pour agir dans la persévérance à bien faire. Et nous avons là tout le nœud du problème au verset 5, de ceux qui seront justifiés ou de ceux qui ne seront pas justifiés. Le verset 4 nous dit « La bonté de Dieu te pousse à la repentance » et le verset 5 dit « Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère. » Ce que Dieu va juger, c'est le fait de refuser de croire en lui, c'est-à-dire dans le témoignage de Dieu. Comme dit les psaumes, l'insensé dit en son cœur, il n'y a pas de Dieu. Moi, je suis quelqu'un de bien, je cherche à me comporter de manière correcte, je fais ce qui est bien, mais ne me parlez pas de Dieu. Ça, Dieu le jugera. Ça, Dieu dira, il ne se soucie pas de me connaître. Ils ne veulent pas me connaître. Ils ne veulent pas de mon autorité, ils ne veulent pas donner une place à leur créateur dans leur vie, à eux qui sont mes créatures. Ça, Dieu le jugera. Et la deuxième chose qu'il jugera, parce que des croyants, il y en a, hein, c'est la décision du cœur. Repentance ou endurcissement. Repentance ou un cœur impénitent. C'est quoi le juste ? Le juste, c'est celui qui vit dans la conscience de Dieu, dans la crainte de Dieu, dans la mesure de sa connaissance, dans sa culture, dans son époque, là où il se trouve. Dieu le sait. Et ce qui me rassure, moi, c'est que Dieu fera le tri. Et puis, il voit les cœurs. Il voit les cœurs de ceux qui cèdent devant la bonté de Dieu qui pousse à la repentance, ou il voit les cœurs de ceux qui s'endurcissent face à l'appel de la conscience. Le juste, c'est celui que Dieu justifie, qui déclare juste parce que justement, il voit un cœur qui se repent et qui se tourne vers lui pour être sauvé, dans la limite de ce qu'il connaît de Dieu, mais qui se tourne vers Dieu pour être sauvé, pour être pardonné. Dieu voit ce cœur et il le justifie. Par quel moyen ? Toujours la même chose, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Même si la personne ne le sait pas, c'est bien parce que Christ est mort pour les péchés et c'est cette mort-là expiatoire qui va pouvoir pardonner les péchés de tous ceux qui ont été justes avant que Jésus-Christ apparaisse, hein, sur la terre, de tous ceux qui après sont là mais qui ne le connaissent pas encore. C'est important parce que parfois nous sommes un petit peu embêtés en tant que chrétiens quand on nous dit oui mais alors tu es en train de me dire que ceux qui n'ont jamais entendu parler de Jésus ils iront en enfer et alors ceux au fin fond de la Mongolie qui à telle époque n'avaient pas encore alors ils n'ont pas pu placer leur foi en Jésus, ils iront en enfer. Non, pas forcément. Beaucoup comme nos contemporains. Vous avez vu qu'à Arles, on n'est pas beaucoup dans cette salle. Néanmoins, Pierre dit, je reconnais qu'en toute nation, celui qui craint Dieu et qui pratique la justice, lui est agréable. Et Romains confirme cela. Gloire, honneur et immortalité pour tous ceux qui ont la persévérance dans le bien, dont le cœur est saisi vis-à-vis du bien et du mal et qui se tourne vers Dieu de quelque nom qu'il l'appelle. Je ne suis pas en train de dire que toutes les religions sont bonnes. Je dis que Dieu connaît le cœur des justes et que c'est toute la question de la révélation. Dieu ne condamnera personne parce qu'il a manqué de révélation. Nous avons l'apôtre Paul qui est l'exemple contraire de tout cela, avant qu'il se convertisse. L'apôtre Paul, il avait été enseigné dans tout le judaïsme, il connaissait l'Ancien Testament par cœur, oui ou non ? Pourtant l'Ancien Testament parlait du Messie, parlait de l'identité du Messie, il avait tout pour connaître. L'apôtre Paul était contemporain de Jésus, ils avaient à peu près le même âge. Il était très ancré dans Jérusalem, il avait fait ses études à Jérusalem avec Gamaliel, etc. Il avait parfaitement suivi tout ce qui se passait, la mort et la résurrection de Jésus. Lui, la révélation, il l'avait. Mais il s'était positionné contre Jésus. Et il persécutait l'Église. Aujourd'hui, en France, connaître Jésus, c'est facile. Et vous avez vu comment le cœur d'un juste se tourne immédiatement vers Dieu. Corneille, il n'y a pas besoin de lui parler longtemps de Jésus. Corneille, il a déjà fait tout un cheminement spirituel, il s'est tourné vers le Dieu vivant et vrai, il n'y a pas plus de révélation pour l'instant. Il lui manque le dernier morceau du puzzle. Il lui manque la pièce qui va donner sens à tout le reste. Et Dieu lui fait la grâce et le cadeau de lui révéler. Il a dit, je t'ai vu, je me souviens de toi. Eh bien écoute, aujourd'hui je vais t'envoyer quelqu'un qui va te raconter la dernière pièce. Et tu vas pouvoir rentrer dans la... être bénéficiaire d'une révélation que tu n'avais pas encore. Et je t'en fais cadeau. La parole de Dieu nous dit que c'est en Christ que le voile se lève. La parole de Dieu nous dit que la loi était un pédagogue pour nous conduire vers Christ, progressivement. Et nous voyons Corneille qui accepte Jésus immédiatement, tout comme l'eunuque. Parce que son cœur était prêt, il ne lui manquait que la dernière pièce du puzzle. Et je terminerai en... Alors, je vous disais, c'est un peu technique, mais c'est important. Parce que des fois, on parle de la prédestination et d'élection. Est-ce que Dieu prédestine les gens à être sauvés ? Ou pas ? Alors, il faut se rappeler qu'Israël était le peuple élu, choisi. Est-ce que être juif, ça équivalait à être sauvé ? Non. Non, il dit que ce n'est pas la loi qui justifie. C'est la foi, toujours la foi. Par contre, c'était le peuple choisi pour être les bénéficiaires d'une révélation meilleure. Par rapport au reste des nations, eh bien, ils avaient une connaissance du Dieu vivant et vrai, plus précise que les pauvres gens des autres nations qui n'avaient plus qu'une trace lointaine, qui faisaient comme ils pouvaient. Le peuple juif a une révélation de Dieu toute particulière. Ça ne veut pas dire qu'ils sont sauvés. D'ailleurs, beaucoup d'entre eux vont marcher dessus, vont se rébeller. Et ils avaient un rôle, c'était de faire connaître Dieu aux nations. Lorsque nous voyons les versets sur l'élection, la prédestination concernant les chrétiens, est-ce qu'on est prédestiné à être sauvé ? Non, ça n'est jamais dit comme ça. Nous sommes prédestinés à connaître Christ, ce qui est très différent. Ce qui est très différent. J'ai commencé par un email d'une femme en Afghanistan qui a reçu 4 rêves de Jésus. Comme Corneille qui a reçu une vision. Parce que Dieu souverainement, à un moment, peut choisir de se révéler et de faire connaître Jésus-Christ à un juste. Et puis s'il ne le fait pas connaître, il ne le fait pas connaître. Corneille, je pose la question. Répondez à cette question. Si Pierre avait désobéi à Dieu et n'était pas allé voir Corneille, Corneille aurait-il été perdu ou sauvé quand même ? Réponds quoi à ça ? Parce qu'il n'aurait pas pu connaître Jésus. Le juste vivra par la foi. Corneille avait fait un cheminement spirituel où il s'était réconcilié avec Dieu dans la limite de ce qu'il en connaissait. Et Dieu l'avait vu. Et Pierre le reconnaît et dit, je reconnais qu'en toute nation, celui qui craint Dieu et qui pratique la justice lui est agréable. Mais maintenant, le Seigneur a élu Corneille pour connaître Jésus-Christ. Il a dit, toi, je t'ai choisi et je vais te révéler Jésus-Christ. Et au cours des siècles, eh bien certains accéderont à cette révélation de Jésus-Christ et d'autres, non. Si ce n'est pas le cas, ben Corneille, il aurait été juste injuste aux yeux de Dieu. Mais il n'aurait pas eu le Saint-Esprit. Il n'aurait pas eu la jouissance d'être libéré de l'esclavage du péché. Parce que ça, il n'y a que dans le Saint-Esprit qu'on peut être libéré de l'esclavage du péché. Il n'aurait pas eu la jouissance d'avoir accès au Père de façon libre, hein, ce trône de la grâce par la prière, cette liberté, cette intimité, être enfant de Dieu. Bref, il y a tout le privilège et tout ce que nous avons d'être, de connaître Jésus-Christ, il ne l'aurait pas eu. Néanmoins, il serait resté devant Dieu injuste. Et ça, c'est important pour nous de bien le comprendre et de bien comprendre aussi en ce sens que personne n'est prédestiné à être sauvé ou perdu. Ça veut dire sinon, bah alors, si Dieu t'a pas choisi pour être sauvé, bah, tu seras jamais sauvé, c'est comme ça. Dieu ne choisit personne pour le salut et il ne choisit personne pour l'enfer non plus. Par contre, il donne à tous le témoignage de la création, la conscience, et il peut choisir d'en donner plus ou pas. Mais Dieu est juste et il ne condamnera pas le juste avec le méchant. Et ça, c'est important dans la nature de notre Dieu, dans son identité, d'en être bien conscient. Et du coup, nous, de prendre conscience de la responsabilité que nous avons. Si vous n'êtes pas né dans une tribu de Papouasie-Nouvelle-Guinée qui ignore tout de Jésus-Christ, c'est parce que Dieu vous a choisi pour connaître Jésus-Christ. C'est-à-dire, comme le peuple juif, d'être placé dans une révélation privilégiée. Mais qui dit privilège, dit responsabilité. Et il nous a prédestinés, dit la Bible, afin que nous annoncions les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Privilège, oui, mais responsabilité. Nous serons jugés plus sévèrement au tribunal de Christ en fonction des lumières que nous avons reçues. Nous, en tant que chrétiens, l'apôtre Pierre nous dit, nous avons tout reçu en ce qui concerne la piété. Tout. Quelle responsabilité ? Alors que nous puissions ne pas, comme l'apôtre Pierre et ses contemporains, être dans une espèce de satisfaction, on est parmi ceux qui ont le privilège de connaître et tout ça. T'as le privilège de connaître, t'as surtout la responsabilité de le mettre en œuvre. Alors, soyons encouragés de ne pas juste être heureux de connaître Jésus-Christ, mais sans nous mettre à l'ouvrage. Sans travailler à notre salut. Il dit, travaillez à votre salut. Vous avez reçu, mettez-le en œuvre. Prions. Seigneur, te remercions de ce que tu n'oublies aucun homme, aucune femme sur cette terre depuis son existence, depuis la création du monde jusqu'à aujourd'hui. Tu connais les cœurs, tu as laissé ta trace et tu permets à chaque être humain de se réconcilier avec toi dans le cadre de ce qu'il peut connaître de toi. Seigneur, cela nous place devant la responsabilité, nous, d'évangéliser. C'est-à-dire de partager la révélation supplémentaire qu'il y a en Jésus-Christ. Et tu nous interpelles, Seigneur, pour que nous ne gardions pas ce trésor pour nous-mêmes, mais que nous puissions le partager. Alors, fais de nous des hommes et des femmes qui se lèvent pour toi, comme Pierre, qui vont au-delà des frontières, des barrières, et qui parlent de ton amour à ceux qui en ont besoin, à ceux qui peut-être aspirent depuis longtemps à cette dernière pièce du puzzle qui leur manque et que nous pouvons leur apporter de ta part. Au nom de Jésus. Amen.